un peu petit pour vous le lire, mais je vais vous le lire. Dans une offre d'emploi en ligne, la société City recrute des commerciaux business to business ayant un excellent relationnel. La mission liée au poste sera de commercialiser auprès des professionnels du secteur des produits et des services de communication. Le commercial portera l'image de l'entreprise et sera soucieux de satisfaire ses clients. L'entreprise offre aux candidats retenus une formation complète aux produits de l'entreprise, un contrat en CDI, une rémunération valorisante, des tickets restaurants, des challenges commerciaux, le remboursement des frais de déplacement, un véhicule de fonction et finalement des perspectives d'évolution de carrière. L'entreprise attend des résultats de son salarié, mais on voit qu'elle lui donne aussi les moyens. De la même manière, la Bible dit que les chrétiens sont investis d'une mission. Le terme de commercial serait sûrement mal choisi, mais la mission du chrétien est aussi de porter l'image du groupe. En contrepartie, la Bible donne aussi les moyens de réaliser cette mission. Nous allons voir ça ce matin. Nous étudierons le texte qui nous a offert un jour de congé jeudi. L'ascension de Jésus se trouve en acte 1. Et ce seront les versets 3 à 14 qui retiendront notre attention. Pendant que vous recherchez le livre des Actes dans votre Bible, donc Nouveau Testament, juste après l'évangile de Jean, je vous propose une rapide contextualisation historique. Jésus a passé 3 ans environ à prêcher dans le pays d'Israël. Puis, il est mort sur une croix, à Pâques. Après cela, quelques jours passèrent, puis il réapparut, ressuscité auprès des disciples. Ainsi démarre le texte au verset 3. Après sa mort, il se présenta à eux, vivants, et leur donna des preuves nombreuses de sa résurrection. Il leur apparut pendant 40 jours et leur parla du règne de Dieu. Or, un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que son Père leur accorde le don qu'il leur avait promis. « C'est le don que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean-Baptiste a baptisé dans l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours. » Comme ils étaient réunis autour de lui, ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rendras le royaume à Israël ?» Il leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. » Après ces mots, ils le virent s'élever dans les airs et un nuage le cacha à leur vue. Ils gardaient encore les yeux fixés au ciel pendant qu'ils s'éloignaient, quand 2 hommes vêtus de blanc se présentèrent devant eux et leur dirent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous en redescendra un jour de la même manière que vous l'avez vu y monter. » Alors les apôtres quittèrent la colline qu'on appelle Mont des Oliviers, située à environ 1 kilomètre de Jérusalem, et rentrèrent en ville. Dès leur arrivée, ils montèrent à l'étage supérieur de la maison où ils se tenaient d'habitude. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zèle, Lé et Jude, fils de Jacques. D'un commun accord, ils se retrouvaient souvent pour prier, avec quelques femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et les frères de Jésus. Ce texte parle de plusieurs choses. Il parle du cadeau du Saint-Esprit. Il parle de baptême. Il mentionne la grande espérance des Juifs de l'époque sur le rétablissement du royaume d'Israël. Il raconte l'ascension de Jésus-Christ auprès du Père. Finalement, il nous montre l'attitude de prière que les disciples ont adoptée après le départ de Jésus. Au milieu de tout cela, un verset est central. C'est le verset 8. « Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. » J'ai choisi d'axer ce message autour de ce verset. Nous verrons dans une première partie les implications de l'annonce du don du Saint-Esprit aux chrétiens. Dans une seconde partie, nous regarderons les modalités de la mission d'être des témoins de Jésus-Christ. Donc grand 1, implication de l'annonce du don du Saint-Esprit. Sur la croix, Jésus-Christ a dit au moment précédant sa mort, « Tout est accompli ». À la lecture de l'Ancien Testament, il faut comprendre par cette déclaration que toutes les promesses de l'Ancien Testament, tout ce qui avait été annoncé avec la venue du Messie, sont accomplies à la mort de Jésus-Christ. Avec sa mort, la relation entre Dieu et son peuple est restaurée. Si tout est accompli, comme l'a dit Jésus, pourquoi est-il revenu ? Pour prouver qu'il était Dieu et qu'il est plus fort que la mort en se ressuscitant lui-même ? Probablement. Mais pas seulement. Jésus leur parla encore du règne de Dieu. Il alla plus loin en leur déclarant qu'il allait repartir, mais que le Père allait leur donner ce qu'il avait promis. Il allait leur donner le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit ? Le Saint-Esprit est une des trois entités de la Trinité. Le Saint-Esprit est Dieu, comme Jésus et le Père sont Dieu. Le Saint-Esprit n'est ni Jésus ni le Père. Il est donné par le Père aux chrétiens à la suite du ministère de Jésus. L'Esprit Saint était présent dès la création. On trouve sa mention dans le second verset de la Bible. Genèse 1, verset 2. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Un petit 1, le baptême. Jésus annonce que les chrétiens vont être baptisés du Saint-Esprit, tout comme Jean-Baptiste baptisait le repentant avec de l'eau. La symbolique du baptême peut être rapprochée d'un acte de la vie quotidienne similaire. Pourquoi prenons-nous des bains ? Cela peut être utile pour se détendre après une journée difficile ou pour se rafraîchir quand il fait chaud. Les enfants répondront probablement pour jouer. Plus communément, le bain sert à se laver. Le baptême aussi sert à se laver. Non pas de la saleté physique, mais des péchés. Étymologiquement, le baptême veut dire plonger dans un liquide ou immerger. Cette immersion, Jean-Baptiste l'a pratiquée comme un symbole de purification des péchés et de changement de vie. Nous la pratiquons en tant qu'Église baptiste comme symbole de repentance. Nous symbolisons par cette immersion que l'ancien nous, notre ancienne manière de vivre, n'est plus. Lors de la remontée après l'immersion, nous symbolisons que nous visons à vivre une nouvelle vie avec Jésus-Christ comme référence. Le mot baptême est utilisé pour parler du don du Saint-Esprit pour deux raisons. La première fait référence à l'immersion. Elle fait référence au fait que l'Esprit vient habiter dans le croyant. Il ne vient pas simplement le toucher avant de s'en aller jusqu'à sa prochaine venue. Il vient habiter en lui. Pour trouver une situation analogue, pensez à un bébé en devenir. Durant 9 mois, il va concrètement habiter dans le corps de sa mère. Durant les derniers mois de la grossesse, la mère va ressentir dans son corps les coups que donne le fœtus. Le Saint-Esprit habitant le chrétien, le croyant aura une relation directe avec celui-ci. Et il pourra ressentir en son être les inspirations que lui donne l'Esprit. C'est en cela que le Saint-Esprit habite dans le chrétien. La seconde raison de l'utilisation du mot baptême fait référence au changement provoqué par cette cohabitation. Petit 2, encourager le croyant. L'action de Dieu est de provoquer le changement, d'encourager, d'être un coach pour le chrétien. Si vous regardez un peu le sport professionnel, vous voyez des coachs sur le banc de touche qui vivent le match intensément. Ils vocifèrent contre leurs joueurs, ils les recadrent, les encouragent, les félicitent. En tant que chrétien, nous avons un coach spirituel. Il nous encourage, il nous soutient, il nous ramène dans la bonne direction. C'est l'Esprit Saint. La référence à l'immersion dans l'acte du baptême laisse penser que ce coach spirituel n'a pas les mêmes contraintes que le coach sportif. Il ne fait pas son œuvre depuis le banc de touche. Il est au plus près de nous, en nous-mêmes. La relation avec l'Esprit Saint nécessite que nous l'écoutions, que nous nous mettions à sa disposition, que nous nous laissions faire. Écouter l'Esprit de Dieu, c'est cela le plus compliqué. Se mettre à son écoute, c'est un peu comme baisser le son de la radio pour écouter ce qui nous entoure. C'est en arrêtant de vouloir penser par nous-mêmes à trouver des solutions à nos problèmes, des idées à nos projets, que l'on peut commencer à écouter Dieu nous parler. Se mettre à son écoute, c'est aussi avoir des temps de prière et de lecture de sa parole. Si trouver du temps ou de la motivation pour la prière et la lecture de la Bible pour vous est un défi, voici quelques pistes concrètes. Ça n'a pas forcément besoin d'être un long moment dans un environnement parfait. Ça peut être au réveil, si vous êtes du matin, ou au coucher, si vous êtes plutôt du soir. Cela peut être dans les transports en commun, juste après un repas, ou le coucher des enfants. Bref, un moment qui joue le rôle de rappel dans votre routine. Il est aussi tout à fait possible de prier de manière communautaire. C'est exactement ce que font les disciples une fois Jésus parti rejoindre le Père dans l'attente du Saint-Esprit. On lit au verset 14, « D'un commun accord, ils se retrouvaient souvent pour prier. » Notre Église propose deux moments de prière, le dimanche matin de 9h15 à 9h45 et le lundi soir de 20h15 à 21h30. Ne soyez pas inquiets, il reste de la place pour vous. Lundi, nous étions trois, ce matin, vous étiez sept. Pour la lecture de la parole, les aides et guides de lecture sont légion en librairie ou sur Internet. Je vous conseille une référence parmi tant d'autres. C'est le livre « Soif de la parole » qui pose quelques questions sur un chapitre afin d'aider le lecteur à réfléchir sur ce qu'il vient de lire. Il est édité par Farel et c'est à peu près 530 pages de questions sur chaque chapitre de la Bible pour aller plus loin dans vos lectures. Fin de la propagande. Voilà pour quelques pistes de réflexion. Comme je l'ai mentionné en introduction, l'entreprise attend de son employé des résultats. De son côté, la société City offre à chaque nouvel employé une formation complète aux produits de l'entreprise. Cette société a compris qu'un nouveau collaborateur n'a pas toutes les clés en main, qu'il n'a pas toutes les compétences pour mener à bien sa mission. Cette formation est un cadeau qui, d'une part, rendra l'employé plus efficace et d'autre part, lui apportera plus de satisfaction dans son quotidien. Pour les chrétiens, le Père donne le Saint-Esprit afin qu'il agisse auprès d'eux, tout comme Jésus a agi auprès des disciples. Grâce à une relation dynamique avec l'Esprit de Dieu, il permettra aux chrétiens d'évoluer vers le modèle qu'est Jésus-Christ. Nous avons vu ce que Dieu donne aux chrétiens. Voyons maintenant pourquoi le Saint-Esprit a été envoyé. C'est ma deuxième grande partie, les modalités de la mission. Dans le verset 8, nous lisons « Et vous serez mes témoins ». Nous nous poserons trois questions sur cette affirmation. Qui témoigne ? Quel est le contenu du témoignage ? Et comment témoigner ? Donc, qui témoigne ? Les chrétiens témoignent. Ils sont les porte-parole de Christ. Le verset 8 précise « mes témoins ». Jésus, depuis le début de son ministère, jusqu'à sa mort, n'a cessé de parler du règne de Dieu. Il a annoncé un message novateur, un message qui mettait en avant la foi en Dieu et qui ouvrait l'alliance entre Dieu et son peuple à tout le monde, juifs et non-juifs. Quand il revient, ressuscité, il parle encore du règne de Dieu, de son royaume à venir à ses disciples. Nous voyons cela au verset 3. Il leur apparut pendant 40 jours et leur parla du règne de Dieu. Être témoin de Jésus-Christ, c'est porter ce message de salut par la foi. La possibilité pour quiconque croit en Jésus-Christ d'obtenir la vie éternelle auprès de Dieu. Les chrétiens, avec l'aide de l'Esprit-Saint, prennent la suite de Christ, de son message. Ils seront et sont encore aujourd'hui, tout comme Jésus-Christ a été persécuté pour ce message de salut par la foi seule. Dans l'attente du retour de Christ, dont seul le Père connaît la date, comme nous dit le texte, il témoigne de l'œuvre de Christ pour les hommes. La foi permet d'accéder au salut de Dieu. Elle permet aussi de garder courage dans l'attente du retour de Christ. Espérer le retour de Christ, c'est témoigner de lui. À témoigner, il n'y a rien à gagner de plus. Tout est déjà acquis au moment où nous croyons en Dieu. Toutefois, nous croyons qu'il serait dommage de garder ce témoignage pour nous. Après tout, si nous avons pu croire en Dieu, c'est probablement parce qu'un autre chrétien nous l'a expliqué. Dans un tout autre sujet, cette semaine, je suis allé chercher une recette sur le site Marmiton. C'est fou le nombre de recettes qu'il y a sur ce site. Pourquoi autant de personnes prennent le temps d'expliquer avec pédagogie leurs recettes? À ma connaissance, il n'y a pas de business model, il n'y a pas d'argent à gagner. Il y a peu de chances que les lecteurs qui tentent de faire la recette invitent l'auteur à dîner un jour. L'auteur aurait très bien pu garder la recette pour lui ou à la limite la passer pour ses enfants. Ce cadeau, ce témoignage de cuisine est motivé par la joie que d'autres personnes, des inconnus, auraient à faire et manger le plat présenté. Et bien de la même manière, témoigner de Christ est motivé par la joie que nous avons à vivre avec lui. Témoigner, c'est donner à des amis ou à des inconnus la possibilité d'acquérir la même joie que celle que nous avons reçue à notre conversion et que nous vivons chaque jour. Jésus a dit à ses disciples d'attendre à Jérusalem pour aller témoigner en Samarie, puis jusqu'au bout du monde. Entre la Samarie et le bout du monde, un jour, il y a eu Clermont-Ferrand. Depuis quelques siècles, le message persiste par la grâce de Dieu dans cette ville. Nous sommes héritiers de la progression de l'Évangile. Notre rôle est d'avoir suffisamment d'amour pour nos prochains afin de leur accorder la possibilité de croire en témoignant à notre tour. Ainsi, le témoignage de Jésus-Christ, de son œuvre, de son message, de son cadeau persistera et par la grâce de Dieu progressera. Deuxième point, quel est le contenu du témoignage ? Nous l'avons vu dans la première partie, nous avons reçu le Saint-Esprit. Nous pouvons donc témoigner du changement qui s'opère en nous. En se laissant guider, modeler par l'Esprit-Saint, nous ressemblons de plus en plus au modèle qu'est Jésus-Christ. Notre vie, nos actions, nos comportements sont des témoignages vivants du message de Christ. Dans son temps, ce qu'il a annoncé correspondait à ce qu'il vivait. À sa suite, nous pouvons faire de même et rendre un témoignage vivant, concret et qui parle à nos contemporains. Troisième question, comment témoigner? Il y a deux messages principaux que Dieu donne à ses disciples dans le texte des Actes et qui nous disent comment témoigner. Dieu leur dit: espérez dans l'attente de mon retour et bougez-vous. Dans le verset 11, les deux envoyés de Dieu nous apprennent que Jésus va revenir. Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous en redescendra un jour. Premier message. Aussi vrai que vous venez de le voir partir, nous vous assurons qu'il reviendra. Jésus nous promet qu'il reviendra. Son retour sera le début du règne de Dieu. Un monde tel que nous connaissons aujourd'hui sera changé et toutes les promesses que Jésus donne à ses disciples sur la fin des temps, dans les évangiles, seront en place. Ce message est à la fois une bonne chose pour celui qui croit, mais un compte à rebours pour celui qui n'aura pas cru. Le second message des envoyés de Dieu aux disciples est « Bougez-vous ». Leur question « Pourquoi restez-vous à regarder le ciel ?» sonne comme un rappel de la mission qui vient d'être donnée par Jésus juste avant son départ. Après la Pentecôte, c'est-à-dire le moment de la réception effective du Saint-Esprit, les premiers chrétiens seront invités à quitter Jérusalem pour aller jusqu'aux extrémités de la terre. Ceci a été le cas quand Paul, dans son troisième périple missionnaire, sera conduit jusqu'à Rome pour y être jugé par l'empereur. Rome était, à l'époque, le carrefour culturel et économique du monde connu. Aujourd'hui, les extrémités réelles du monde connu ont été quasiment atteintes. Devrions-nous désormais attendre patiemment, car la mission de Jésus a été géographiquement accomplie? Bien sûr, je peux filer au fin fond de la forêt amazonienne et finir le boulot proprement. Mais nous pouvons aussi rester ici, à Clermont, voire dans ce quartier, pour témoigner. Le nombre de personnes qui n'ont pas eu accès à une explication claire du salut par la foi en Christ est grand. Il y a probablement dans mes voisins, ma famille et mes proches des personnes qui n'ont jamais entendu clairement le message de Jésus. Le bout du monde commence déjà par mes proches. Pour conclure et synthétiser ce que nous avons vu, reprenons le verset 8. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie et jusqu'au bout du monde. Le Saint-Esprit opère un baptême chez le croyant et crée des changements en lui. Ces changements permettent aux chrétiens de tendre à ressembler à Jésus-Christ. Cette ressemblance se voit et permet aux chrétiens de témoigner en action du message de Dieu. Le disciple prend, par son témoignage, la suite de Jésus-Christ, en permettant au message qu'il avait annoncé au peuple de Judée de rester vivant et actuel. Le message s'étant répandu depuis 2000 ans, nous pouvons continuer de témoigner partout, à commencer par les personnes qui nous sont les plus proches. Je prie le Seigneur qu'il nous aide en tant qu'Église, mais aussi individuellement dans notre quotidien, à garder à cœur la passion pour son Évangile. Amen.